Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce nouveau podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied, amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point tellement important et si complexe, la nutrition et la nutrition la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive pour leur demander leurs secrets. Et dans ce deuxième épisode, j'ai la chance de recevoir un coureur qui sait parfaitement ce que courir longtemps signifie. Imaginez, regardez un petit peu sa carte de visite. Multiple champion d'Europe et du monde sur des disciplines qui ont de quoi effrayer beaucoup de coureurs. 100 km, 24 heures. Bruno Hobby a été vainqueur des 100 km de Millau, champion du monde de 100 km, sélectionné en équipe de France de 24 heures. Sur cette distance, son record est de 242,382 km. Et en regardant ses statistiques sur son site, un chiffre m'a interpellé. En 1999, il a couru le 100 km en 6h51 et 25 secondes. 6h51 et 25 secondes. C'était au championnat du monde 99, et si vous avez du mal à vous rendre compte de ce que cela fait, regardez là à quelle vitesse vous courez si vous êtes en train de courir. Cela fait une moyenne de 14,58 km/h, soit une allure de 4 minutes 06 au kilomètre. Oui, 4 minutes 06 au kilomètre pendant 100 km. Alors bien entendu, j'ai voulu en savoir plus sur les recettes de Bruno Hobby, celles qu'il a appliquées lui dans sa carrière, celles qu'il conseille aux sportifs qu'il encadre dans ses coachings, dans ses stages, les conseils qu'il peut apporter aux centaines de sportifs de tous niveaux dont certains sont champions du monde aussi à leur tour. Nous avons parlé du rôle de l'alimentation dans la performance, lors de l'entraînement, la compétition, il partage avec nous ses stratégies, ses anecdotes, ses petites tactiques, ses ressentis et aussi ses recettes préférées, ses petits secrets, ses des fois, ses petits secrets un petit peu surprenants, les petites choses qui ont pu lui faire du bien, ces petites astuces, ces petits conseils. Et si vous voulez en savoir plus sur notre invité, je vous encourage à regarder les notes de l'épisode et suivre tous les liens. Vous pouvez bien sûr aussi aller consulter le site du podcast happyrun.fr/podcast ainsi que le compte Instagram @podcastsportetnutrition tout attaché sur lequel nous publions des compléments et la recette de nos invités. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Bruno Hobby, c'est une plongée passionnante dans le monde de l'endurance. Bonjour Bruno.
Bonjour Bertrand.
Alors, je suis enchanté de vous avoir comme invité aujourd'hui dans cet épisode du podcast, le deuxième de notre nouveau podcast, parce que quand j'ai regardé la liste de votre palmarès et de ce que vous avez fait, je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour courir autant, pour faire de telles distances, de courir autant, aussi longtemps? Et je me dis que forcément, vous avez des secrets de nutrition, d'entraînement à nous partager. Et je pense pas me tromper en disant ça.
Alors, des secrets, souvent j'ai coutume de dire que, en fait, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Parce que je crois qu'on est tous plus ou moins au courant de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire, que ce soit en matière d'entraînement ou en matière de nutrition. On a parfois tendance à l'oublier, ça nous échappe, mais il n'y a pas vraiment de secret. Ce que moi j'ai mis en œuvre pour réussir, pour progresser, c'est des choses que tous ceux qui réussissent mettent en œuvre. C'est de la passion, c'est de l'envie, c'est du plaisir au quotidien, du plaisir à se nourrir, du plaisir à courir. Et c'est ça qui m'anime avant tout. Si ça fait bientôt un demi-siècle que je fais de la course à pied en compétition, c'est parce que ça me plaît, parce que j'aime ça, et parce qu'il y a du plaisir à chaque fois.
Alors, pour les gens qui vous connaissent pas trop, parce que il peut y avoir des gens qui n'ont pas un petit peu la vision de qui vous êtes réellement, vous dites un demi-siècle de course à pied, donc ça en fait, je vous demande pas le nombre de kilomètres, mais votre format préféré, on va dire, de course, de compétition, et un peu votre palmarès, je pense, ça va un petit peu plus parler aux gens. Alors, quel est votre, on va dire, votre sous-discipline dans la course à pied, j'ai envie de dire, je sais pas comment le présenter réellement en plus.
Ma discipline de prédilection?
Oui.
Alors, la discipline dans laquelle vraiment je me suis le mieux épanoui et dans laquelle j'ai le mieux réussi, c'est le 100 km. Mmh. Donc, une course qui consiste à courir 100 km. Hein. J'ai souvent eu ce genre de questions quand je disais que j'étais champion du monde de 100 km par équipe. Souvent, les gens pensent que dans l'équipe, on se partage le 100 km, on fait chacun des morceaux de 100 km et on se relaye. Mais non, pas du tout. 100 km, on le court bien du début jusqu'à la fin. Et c'est le format de course sur lequel j'ai le mieux réussi. Dans la famille de l'athlétisme, en dessous, c'est le marathon. J'ai pas été un très grand marathonien. J'ai un record à 2h30, mais au regard de mon niveau sur 100 km, c'est pas comparable. Mmh. Et puis au-dessus, la discipline ultime, pour laquelle j'ai eu aussi quelques sélections en équipe de France, mais pour laquelle je réussissais un peu moins, justement pour en parler, parce que c'est essentiellement lié, je pense, à la nutrition, c'est le 24 heures. Et là, une fois de plus, hein, j'explique aux gens, oui, on court bien pendant 24 heures, comme les 24 heures du Mans, comme les 24 heures Boto, on court pendant 24 heures sans s'arrêter. Et l'équipe de France, c'est la somme des distances parcourues par les trois meilleurs de l'équipe qui fait le classement.
Alors, c'est intéressant d'ailleurs cette notion autour de... Moi, j'ai regardé votre record sur 100 km.
Oui.
6h51 et 25 secondes.
Hein, c'est ça.
C'est ça. Et j'ai pris un calculateur, j'ai regardé la moyenne et j'ai cru que je m'étais trompé.
Oui, oui. Souvent, quand on dit aux gens 6h51, ben, moi, j'ai eu l'habitude sans être prétentieux, de faire des interviews, de rencontrer des gens, des journalistes. Et oui, quand on dit 6h51, quand on ne connaît pas le 100 km, et beaucoup de personnes ne connaissent pas le 100 km, ça ne représente rien. Donc, j'ai coutume de dire, ça fait 41 minutes, un peu moins de 41 minutes, 40, 50 ou 10 km, mais 10 fois de suite. Ou 2h52 au marathon, 2 fois et demi. Oui, c'est presque 15 km/h. Mais... même moi maintenant, avec le recul, parfois je me demande comment j'ai fait pour courir aussi vite et aussi longtemps. Ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté ma carrière internationale, un peu plus pour le 100 km. Et maintenant, je vais bientôt avoir du mal à courir 10 km à l'allure à laquelle j'en courais 100.
Oui, alors je vais le répéter quand même parce que moi, mon calculateur m'a dit que vous aviez une moyenne de 4,06 au kilomètre.
C'est ça.
Pendant 100 km. Et... c'est vrai que vu comme ça, on se dit on est pratiquement aux 40 minutes aux 10 km, ce qui est un objectif qui est une espèce de barrière pour beaucoup de gens, qui notamment quand on reprend un petit peu tard, etc. Et on se dit le faire effectivement 10 fois comme ça, moi ça me paraît juste, mais je me dis c'est juste incroyable comme ça. Comment on se prépare et quelle place joue justement l'alimentation, la préparation? C'est quoi l'élément qui fait qu'on arrive à courir comme ça 100 km à cette allure?
Alors, je crois que déjà, au départ, il y a vraiment... moi, quand je pensais aux 100 km, c'est une épreuve que j'ai connue très jeune, puisque à l'âge de 20 ans, je suis allé sur une épreuve de 100 km avec mon frère, qui était beaucoup plus au courant de moi que moi de ce qui se passait dans la course sur route qui était en train de naître. Donc, dans les années 70, en 78, j'ai vu un 100 km. Ça existait déjà, c'était les prémices, et je me suis dit « waouh ». Ces gens-là sont mes héros. À l'époque, la course sur route, on était assez balbutiement. Et je peux vous dire que c'était vraiment des héros qui n'étaient pas chaussés, mal chaussés, qui n'avaient pas de lampe frontale, qui n'avaient pas de GPS. Et j'ai vraiment été très impressionné parce que j'ai vu, et c'est resté dans un coin de ma mémoire. Mais quand je faisais du marathon, le 100 km me faisait peur. Et ce qui est incroyable, c'est que cette discipline qui m'a tout apporté, a longtemps été une épreuve qui m'a fait peur. Et j'ai fait du 100 km, je me suis lancé sur 100 km quand j'ai eu la nécessité de m'arrêter de courir pour préparer l'agrégation d'éducation physique, puisque je suis prof agrégé d'EPS. J'ai passé l'agrégation d'EPS, j'ai donc dû arrêter de pratiquer la course à pied pour préparer cette épreuve. Et quand j'ai fini la préparation de l'agrégation, quand je l'ai réussi, j'avais envie de faire un truc un peu dingue parce que voilà, j'avais beaucoup donné mentalement et j'avais besoin de retrouver mes racines, c'est l'exercice physique. Et je me suis dit, et ça je c'est vraiment présent dans ma mémoire et j'aime bien le raconter, je me suis dit, maintenant que tu t'es arrêté pendant un an et demi, tu n'as plus rien à perdre, tu peux te lancer sur 100 km. C'est-à-dire que dans ma tête, et ça je l'ai encore clairement à l'esprit, je n'avais plus rien à perdre sur marathon, je pouvais me lancer sur 100 km. Ça veut dire que pendant longtemps, j'ai eu des freins, j'ai eu des retenues. Alors sans doute de mon environnement, sans doute de, je me rappelle plus très bien, mais c'est une épreuve qui me faisait peur. Et je m'y suis lancé, pas par défaut, mais je m'y suis lancé en me disant, voilà, maintenant je peux y aller, c'est pas très grave. Parce qu'on avait l'idée que cette épreuve était un peu une impasse. C'était vraiment une épreuve pour des gens qui avaient fini leur carrière sur marathon et qui se lançaient un peu par dépit sur 100 km. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est une épreuve qui est vraiment, qui a toute sa noblesse. Et en faisant cette première épreuve, dans mon idée, le but, c'était juste d'aller au bout. Parce que courir 100 km, ça me paraissait tellement incroyable. Et quand je l'ai couru, je me suis dit, bon, je l'ai réussi beaucoup mieux que ce que je prévoyais. Je pensais faire 10 heures et j'ai fait 7h50. Et là, je me suis dit, waouh, cette épreuve est faite pour moi. Donc, il y a vraiment pour répondre à votre question, hein, désolé, j'ai fait une petite digression. Je crois qu'il y a vraiment des aptitudes, des compétences, une appétence pour cette épreuve. Et j'ai cette aptitude à courir, 6 à 7 heures. C'est dans ce registre-là que je me réalise le mieux et que j'optimise le mieux mes performances. Et puis, c'est une épreuve qui est à la fois stratégique, puisque on doit vraiment avoir une stratégie de course très au point, pour des raisons que je pourrais expliquer, hein, si ça peut intéresser nos auditeurs. Il y a une stratégie nutritionnelle aussi qui est très importante. Donc, ce côté un peu intellectuel de cette épreuve, qui est justement une course où il faut beaucoup réfléchir, m'a attiré. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a aidé à réussir, parce que j'avais ce côté un peu curieux de trouver les clés de cette épreuve qui est quand même assez particulière.
Alors, moi, je veux bien qu'on en dise un mot justement sur le côté alors un peu stratégique, parce que moi, c'est vrai, je me rends pas compte de voir c'est quoi le côté en fait stratégie. Or, la nutrition, il y a une stratégie de course à adopter pour arriver à l'emporter, j'ai envie de dire, parce que c'est ça hein, quand on regarde le palmarès.
Oui, il y a vraiment une stratégie de course à adopter. C'est-à-dire que, en fait, cette distance est tellement longue que la vitesse à laquelle on va partir est une vitesse qui ne va pas nous renseigner sur le fait qu'on est ou pas à la bonne allure ou sur le fait qu'on est ou pas dans le bon registre de course. Quand vous courez un 10 km à fond, on a des sensations d'essoufflement, de difficultés qui vont dire « Oula, je vais trop vite ». Même sur un marathon, sur un 100 km, la vitesse, alors je suis désolé de dire ça, hein, c'est pas prétentieux, mais toute proportion gardée, est tellement lente, parce que moi, quand je courais à 4,05 km, ma vitesse de footing était bien plus rapide. Je courais à 15,5, 16 en aisance. C'est-à-dire que moi, je pouvais partir sur un 100 km à 15,5, 16 sans aucune difficulté et faire 60 km comme ça. Sauf qu'au bout de 60 km, j'explosais et je ne finissais pas ou je finissais mal. Enfin, j'ai jamais fait parce que je ne voulais pas me tirer une balle dans le pied, mais c'est ce qui se serait passé. Donc, on n'a pas vraiment d'indices qui vont nous dire si on a la bonne vitesse. Donc, il y a en amont, dans la préparation, toute une stratégie à adopter pour connaître sa bonne allure, sa bonne vitesse, de façon à ne pas se tromper. Et ça, c'est très difficile.
Oui, j'imagine bien, je vois bien en fait hein, cette histoire, parce que, bon, je ne sais pas si on peut dire si la VMA renseignerait les gens, mais vous vous souvenez de la VMA que vous aviez à cette époque-là ou...
Oui, j'avais... un peu plus de 20,3, je crois, ou 20,4 km/h de VMA, je ne me rappelle plus exactement, donc un petit peu plus de 20 km/h. Mais la VMA sur 100 km n'est pas un facteur déterminant. Par exemple, en équipe de France, j'avais une des moins bonnes VMA, j'étais un des moins bons marathoniens avec 2h30. Dans l'équipe de France, il y avait Pascal Fétizon que j'entraînais, qui valait 2h14 ou 2h15 au marathon. Et donc les grosses difficultés qu'il y a eu, il y avait une VMA bien plus importante, hein, au-delà de 21 km/h. Et comme la VMA n'est pas un facteur prépondérant et déterminant dans la réalisation de la performance sur 100 km, c'est pas quelque chose qui est vraiment prégnant. En fait, quand on veut réussir sur 100 km, comme dans toutes les épreuves d'ailleurs, hein, le trépied de la performance, ce que j'appelle la performance, c'est puissance plus endurance plus efficience. Voilà, j'ai fait exprès de synthétiser avec des mots qu'on retient facilement. Performance égale puissance plus endurance plus efficience. La puissance, c'est la VMA. L'endurance, c'est la capacité à courir vite longtemps, l'endurance aérobie. Et l'efficience, c'est le rendement. Et plus la distance est longue, plus il faut avoir un bon rendement. C'est-à-dire qu'à chaque déplacement, chaque foulée ne doit pas vous coûter beaucoup d'énergie. Et c'est la combinaison de ces trois facteurs qui fait la performance. Moi, je n'avais pas une grosse puissance, mais j'avais une très grosse endurance et une très bonne efficience. Alors qu'à l'inverse, Pascal Fétizon, par exemple, avait une très grosse puissance, un peu moins d'endurance, mais il était quand même... Il était quand même le meilleur athlète au monde, il était quand même champion du monde. Donc ces trois facteurs interagissent.
Oui, c'est intéressant parce que c'est la fameuse économie de course hein, dont on parle beaucoup hein, en disant qu'il y en a qui se fatiguent plus vite que d'autres en courant, j'ai envie de dire. Mais sur 100 km, c'est quelque chose qui est primordial, quoi.
C'est ça. Un peu, moi je fais souvent des comparaisons, j'organise des stages de course à pied et l'idée c'est de rendre les choses accessibles et simples, c'est de vulgariser les choses. Donc je fais souvent la comparaison avec la voiture. En fait, on peut avoir un gros moteur, une voiture qui a un gros moteur, être une Ferrari, mais que cette Ferrari consomme beaucoup, qu'elle ne soit pas économique. Le coureur à pied, c'est la même chose. Il doit être le plus économique possible. Il doit dépenser le moins d'essence possible. Alors, il n'est pas aérodynamique, lui, mais l'essentiel de son économie de course, c'est sa foulée. Et cette foulée, cette efficience, cette économie de course, elle s'améliore. Elle s'améliore essentiellement, un peu comme on dit... Il faut forger pour être un forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et ben c'est en courant qu'on devient efficient. Et c'est en courant à la vitesse de course que l'on devient efficient. Ça, c'est très important. Plus on va courir à l'allure de l'objectif que l'on se fixe, plus l'efficience va s'améliorer parce que le corps humain est bien fait et qu'il va mettre en place des adaptations pour rendre le déplacement moins coûteux. Parce que voilà, on a une espèce d'atavisme. Hein. On est tous des descendants de chasseurs-cueilleurs qui avaient un rendement très 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 efficace parce que passaient leur journée à se déplacer et de leur déplacement dépendait leur survie.
Oui, et c'est vrai qu'on a oublié en fait hein, que l'homme à sa naissance de l'humanité, j'ai envie de dire, devait se déplacer en permanence. On n'avait pas le confort hein, d'avoir l'eau courante, d'avoir le frigo qui se remplissait, etc., et de pouvoir aller faire ses courses, et encore moins d'avoir des livreurs. Donc, on a, notre corps en fait est fait pour le déplacement.
Complètement, complètement. Nous ne sommes pas faits pour rester assis. Nous sommes faits pour bouger. Le corps humain est fait pour bouger, pour se déplacer. Et en fait, j'aime bien cette idée, mon père disait souvent, la fonction crée l'organe. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que plus on va courir, plus on sera en mesure de courir. Et quand je dis que je cours depuis un demi-siècle, moi j'ai commencé la compétition à 12 ans, j'en ai 60, donc oui, c'est presque un demi-siècle. Donc c'est une longue et lente adaptation du corps et de l'organisme. On peut faire des choses extraordinaires. Le corps humain, c'est ce que je dis à tout le monde, le corps humain, vous n'imaginez pas ce que vous êtes capable de faire. Peu de gens imaginent ce qu'ils sont capables de faire parce que le corps humain, si on lui laisse le temps, si on l'entraîne correctement, peut faire des choses extraordinaires. Pour moi, au-delà du 100 km et du 24 heures, ce que j'ai fait quand j'ai fait la Transgaule, ça dépasse tout le reste. Courir un marathon et demi par jour pendant 18 jours pour traverser la France du nord au sud, avant que je puisse imaginer que mon corps serait capable de faire ça, il m'a fallu des années et des années. Et même encore maintenant, je garde un souvenir incroyable de cette aventure humaine. Et mon corps humain, mon corps l'a fait, hein, le corps humain a des capacités incroyables.
Oui, et c'est vrai que, alors, c'est vrai, cette Transgaule, là, j'ai vu, hein, effectivement. Donc, il faut le rappeler, c'est 1156 kilomètres.
C'est ça, en 18 jours.
Ça part d'où? Ça part de Lille ou...
En Bretagne. Oui. On arrive à 800 en Méditerranée. Donc, traverser mon pays à la force de mes jambes, ça, c'était quelque chose. Alors, c'était vraiment mon chemin de Compostelle à moi. Et d'ailleurs, il y a une symbolique. Hein, j'ai rempli une bouteille d'eau à Roscoff et je suis allé la vider dans la Méditerranée. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivé sur la plage des Chalets à Grissan, j'ai été vider ma bouteille d'eau de la Manche. J'ai été la vider dans la Méditerranée. Il y a une espèce de symbolique assez incroyable dans cette épreuve.
Ouais, alors moi je vais en vacances à Grouissant. C'est vrai, alors je suis juste en train de me voir sur la plage des Chalets en me disant si j'étais arrivé là à la force de mes pieds en ayant fait 1156 km. Effectivement, je me dis il faut quand même que le corps soit extrêmement bien fait pour arriver à faire ça parce que 99 heures de course, hein, c'est ça, pour arriver à faire cette traversée.
Oui, c'est ça. C'est très honnêtement, quand j'ai pris le départ de cette course, là, c'est le saut dans l'inconnu complet. J'avais beau avoir fait beaucoup d'épreuves de longue distance, c'est l'inconnu complet. Comment le corps va-t-il réagir au bout de 2, 3, 4, 5, 6, 18 jours de course? C'est vraiment une introspection incroyable. C'est un chemin de vie extraordinaire. Je ne savais pas du tout si j'étais en mesure de faire cette traversée, et surtout de la faire à plus de 11,5 km/h de moyenne, et d'enchaîner comme ça chaque jour des étapes qui variaient entre 50 et 75 km, ça a été une expérience extraordinaire. En plus, j'ai eu le privilège de la vivre avec toute ma famille, mon épouse, mes enfants, tout le monde était là. Ça a été une aventure incroyable.
Alors tout à l'heure on parlait d'une Ferrari, du carburant, de ce qu'on y met dans le réservoir et de ce qu'elle consomme. Finalement, c'est quoi alors on a dit il n'y a pas de secret, mais c'est quoi le carburant qu'on met dans un coureur d'endurance comme ça? Et est-ce que vous, en tout cas, comment vous remplissez le réservoir?
Alors on parlait tout à l'heure de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Ils passaient leur journée à se déplacer, mais eux, je suppose, j'étais pas là pour le voir. Je suis pas tout jeune. Eux s'arrêtaient pour manger, s'arrêtaient pour boire. Enfin, en tout cas pour manger. Le corps humain n'est pas fait. Le corps humain, le système digestif n'est pas fait pour fonctionner pendant que l'on se déplace. Donc ça, c'est la vraie problématique. Alors sur 100 km, quand on court à 15 km/h, c'est comme un marathon. Il est impossible, quasiment impossible d'ingérer quoi que ce soit. En tout cas, moi, je ne le pouvais pas. Donc, ce n'était que de l'alimentation liquide. Et à 15 à l'heure, on chope le bidon à la volée, on boit 4 ou 5 gorgées, 6, 7 gorgées, parce qu'on sait qu'il va falloir quand même ne pas se déshydrater, mais ça va vraiment très vite. D'ailleurs, c'est un peu, enfin, avec le recul, je dis, je veux dire, c'est un peu dommage, mais oui, c'est vrai que là, il y a une espèce de frénésie quand on est dans un championnat du monde qui est pas forcément toujours. Là, on se rapproche vraiment du marathonien. On les voit, les marathoniens, ils attrapent leur bidon, ils boivent deux gorgées, boum, ils le balancent. Mmh. C'est pas là, nous, mais pas très loin quand même. Donc, c'est uniquement de la boisson et de la boisson énergétique. Donc là, il est impératif d'avoir une boisson énergétique de grande qualité, qui va apporter tous les nutriments, qui va apporter les glucides nécessaires, donc les sucres. Donc là, la boisson, le choix de la boisson, pour moi, était vraiment très, très important.
Y a une caractéristique sur les sucres à mettre, ou finalement, parce que c'est vrai que cette notion de sucre, de ce qu'on va mettre, de comment on consomme, c'est toujours un peu... On se pose toujours les questions de ce qu'on doit mettre dans ce bidon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, par exemple, si là, par exemple, moi, c'est pas le cas, hein, je me décide pas de faire à 100 km demain, mais je mettrais quoi dans ce bidon? Qu'est-ce que je pourrais mettre, par exemple?
Alors, moi, j'ai tendance à faire confiance, enfin, j'ai pas tendance, moi, je fais confiance aux gens dont c'est le métier et qui savent comment élaborer une boisson énergétique de qualité. Donc, moi, je fais pas de mélange, je bricole pas, je cuisine pas, mais pas de la poudre de perlimpinpin. Je fais confiance à une marque. Je prends cette boisson-là. Je sais que cette boisson est élaborée correctement avec différents sucres. Une boisson énergétique de qualité, selon moi, contient différents sucres. Il n'y a pas un seul type de sucre. Il y a différents types de sucres. Voilà. Le goût de la boisson est aussi très important. Moi, je n'aime pas les aliments. On en reparlera, mais je n'aime pas tout ce qui est chimique. Tout ce qui n'est pas naturel. Donc, le goût de la boisson doit se rapprocher de quelque chose qui est très naturel. Si c'est une boisson menthe, on doit avoir l'impression de presque de sucer une feuille de menthe et pas d'avoir un truc sucré qui est chimique. Parce que ça permet une meilleure alimentation et aussi parce que ça permet une meilleure assimilation et ça évite, parce qu'on a vraiment une problématique sur les épreuves de longue distance. Pas trop sur le 100 km un petit peu, mais au-delà, par exemple, sur 24 heures, là, on a une vraie problématique de l'écœurement du sucre. Et donc, encore plus sur des distances au-delà du 100 km. La façon dont la boisson est composée, sa texture, son goût, en plus de ce qu'elle contient au niveau des différents types de sucre, est très très importante. Mais le goût de la boisson, le type de sucre qu'elle contient est assez important. Après, moi, j'alternais aussi avec des boissons qui comportaient des acides aminés ramifiés. Parce que forcément, sur 100 km, on a une dégradation musculaire qui est assez importante. Et donc, le fait de prendre des acides aminés ramifiés va permettre aussi d'apporter déjà, d'avoir un apport en protéines de très bonne qualité pour la reconstruction, musculaire. Et quand j'ai fait mon premier 100 km, j'étais novice, je découvrais l'épreuve et donc j'étais parti avec mes amis qui couraient pour faire 9h, 9h30. Voilà, je les suivais. Moi, j'étais le petit nouveau. Et puis, au fur et à mesure de l'épreuve, il s'est avéré que j'ai pris mon envol. Et à un moment, j'ai croisé un coureur. Je l'ai doublé et il m'a dit « Ouah, tu vas bien là, c'est super ce que tu fais ». Et on échange un peu, on discute. Le mec, il est médecin. Je lui explique, je sais plus trop bien que c'est mon premier 100 km. Il me dit, oh, mais il faut que tu prennes des protéines, hein, c'est hyper important. Alors, ah bon, des protéines, bah, qu'est-ce que je vais prendre? Il me dit, bah, tu t'arrêtes au ravitaillement, là, il y a des vaches qui rient, tu prends la vache qui rit, tu la manges. Moi, la vache qui rit, déjà, sans courir, j'aime pas ça. Il m'a dit ça, il est médecin, il s'y connaît, c'est un coureur. Je me suis arrêté, j'ai pris une vache qui rit. C'était pas bon. Je suis reparti en courant, et puis j'ai fini ma course. Et je pense que le temps, alors déjà, je ne sais pas. Le nombre de protéines de qualité que contient une vache qui rit, on ne devrait peut-être pas donner des marques, je suis désolé, mais je pense qu'entre le moment où je l'ai ingéré et le moment où les protéines sont arrivées jusqu'à mes muscles, la course devait être finie depuis longtemps. Avec des boissons énergétiques de qualité, on a un apport qui est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis. Donc voilà, j'ai un peu évolué dans ma stratégie alimentaire entre le premier où je découvrais tout et les autres où j'ai appris au fur et à mesure.
Oui, mais c'est l'expérience en fait. On disait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est comme ça que se crée l'expérience, parce que on s'entraîne justement sur ces stratégies comme ça là de ce qu'on est capable d'ingérer, comment on peut le supporter, parce que à l'entraînement on court pas 100 km dans tous les cas.
Non, à l'entraînement on ne court pas 100 km. Il ne faut surtout pas courir 100 km, comme il ne faut surtout pas courir un marathon on se lance sur marathon. Sur marathon, moi, je recommande la règle des 4/5e, c'est-à-dire que, en fait, il faut toujours raisonner en durée, faut pas raisonner en distance, parce qu'un marathon, ça veut rien dire. Un marathon, ça peut se courir en 2 heures quand on s'appelle Kipchoge, mais ça peut se courir en 5h30 ou en 6h. Donc, il faut raisonner en durée. Et ce qui est important, selon moi, là, c'est l'entraîneur qui parle plus que l'athlète, c'est d'arriver à courir à peu près les 4/5e de la durée de l'effort que l'on prévoit de faire. Donc, quelqu'un qui va courir 5 heures son marathon, moi, je recommande que sa sortie la plus longue, à 3 semaines de l'objectif, dure 4 heures. Mais avant d'arriver aux 4 heures, on va progressivement augmenter la durée en partant 8, 10, 12 semaines avant pour habituer le corps. Hein. On n'arrive pas à 4 heures comme ça en claquant des doigts et on ne fait qu'une seule fois 4 heures à 3 semaines de l'objectif. Donc, il y a une préparation déjà à ce niveau-là, au niveau de la durée de l'effort. Et il est recommandé, pendant ces sorties, ce qu'on appelle les sorties longues, oui, de tester la boisson, de s'habituer à boire. J'ai coutume de dire qu'il y a une véritable entraînabilité du système digestif. C'est-à-dire que plus on va s'entraîner à boire, et plus on sera en mesure de boire, et plus on aura besoin de boire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté en entraînant des athlètes. De différents niveaux qui pensaient boire beaucoup et qui ne buvaient pas assez. La lutte contre la déshydratation, j'ai coutume de dire que c'est un combat perdu d'avance. Inexorablement, on ne boira jamais autant, sauf s'il fait très très froid, et encore, on ne boira jamais autant, on n'est jamais en capacité de boire autant que ce que l'on va perdre, surtout s'il fait chaud et surtout si on sue beaucoup. Donc, en plus de la qualité de la boisson, la quantité de liquide ingéré est hyper importante. Il faut au moins boire 500 ml par heure, c'est-à-dire un bidon. Et si on se rapproche du litre, c'est encore mieux, parce qu'on peut perdre plus d'un litre. Donc, cette lutte contre la déshydratation, c'est un combat perdu d'avance. Il faut reculer l'échéance le plus possible. Et pour s'entraîner, pour être capable de boire entre 500 ml et 1 litre par heure, il faut s'entraîner. On n'y arrive pas en claquant des doigts. On n'y arrive pas. Donc, il y a vraiment une stratégie à l'entraînement de se préparer à boire de telles quantités et aussi de tester la boisson pour voir si elle convient ou pas.
Ouais. Et alors là-dessus, je vais rebondir parce que j'ai vu il y a pas longtemps un documentaire qui s'appelle Breaking 2, Breaking 2, qui est sur la. Bah, on parlait de Kipchoge tout à l'heure sur la première tentative de passer sur les 2 heures au marathon. Et il montre qu'en fait, ils étaient 3 parce qu'il y avait il y avait 2 partenaires d'entraînement, enfin de course en tout cas. Et le deuxième, dont j'ai perdu le nom, était champion du monde de semi-marathon quand même. Hein. Et il avait passé le semi-marathon en moins d'une heure sur la piste de Monza dans la course préparative qu'ils avaient faite. Donc, il a avoué, les chercheurs ont montré, en fait, qu'il ne buvait pas pendant ses courses.
Kipchoge ?
Non, le deuxième, alors, dont j'ai perdu le nom, qui était champion du monde du semi-marathon à l'époque, ou qui a été plusieurs fois champion du monde de semi-marathon, ou qui avait fait Boston. Non, je sais plus, parce qu'ils sont 3 en fait dans la tentative, faudrait que je retrouve. Mais ouais. En fait, un athlète de ce niveau-là courait à une vitesse qui était, on parle quand même de 21 km/h, et ne buvait pas. Alors, ce qui a priori sur semi-marathon semblait pas lui poser un problème, mais par contre, dès qu'il passait sur marathon,
n'importe qui, même sans être champion du monde de semi-marathon, quand il part courir une heure, n'a pas forcément besoin de boire. Alors, c'est pour ça que c'est important. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est important de penser les choses en termes de durée. Voilà. Parce qu'en fait, ce coureur, quand il fait un semi-marathon, il court une heure. Et n'importe qui va courir une heure n'a pas forcément besoin de boire. En plus, ce coureur-là, pour reprendre l'exemple de la voiture, les coureurs de très haut niveau ont cette capacité d'emmener plus d'essence, plus de liquide, plus de carburant. Parce que chaque gramme de glucides stocké est accompagné à peu près de 3 grammes d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, un athlète de haut niveau qui est capable de stocker beaucoup de glycogène, beaucoup d'essence, il va amener avec lui beaucoup d'eau. Donc, on avait fait des études. Moi, je suis la génération de Jean-Baptiste Protet, qui était un marathonien qui a fait les Jeux Olympiques et qui était à moins de 2h12. Il buvait pas non plus, mais à l'époque, ça se faisait pas. Et il avait calculé que pour les athlètes de très haut niveau, en faisant bien le régime dissocié, en faisant bien le stock de glucides, sur 2 heures, on est limite de ne pas avoir besoin de boire. Les connaissances ont un peu évolué maintenant, et quand on regarde un Kipchoge, quand il fait sa tentative contre le record du monde, là, c'est vraiment les grandes nouveautés. Regardez les marathons, il y a 5-10 ans, ils ne le faisaient pas. Maintenant, ils le font. Ils prennent le temps de boire. Mmh. Ils savent qu'une ou deux secondes, ce n'est pas une ou deux secondes de perdu, mais une ou deux secondes de gagné. Et ils prennent vraiment, là, Kipchoge, ils prenaient vraiment le temps de boire. Et on sait maintenant que c'est important. Mais sur un semi-marathon, sur une heure, aucune raison d'emmener quoi que ce soit. D'abord, il n'y a pas besoin. Ensuite, on va tellement vite qu'on va presque s'étouffer en buvant. Donc, il n'y a aucune raison pour eux, sur une heure, d'emmener à boire. Aucune raison. Même ouais. s'ils finissent les rallyes, ce n'est pas très grave. La course est finie, de toute façon.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand il passait sur marathon qu'il explosait parce que, bah, justement, on rentrait dans des durées où là, il avait besoin de rentrer dans, bah, dans cette alimentation, dans cette nutrition qui était plus, plus importante pour lui. Après, moi, on a parlé du 100 km, mais c'est vrai qu'il y a aussi les fameux 24 heures qui, alors là, c'est aussi quelque chose qui est une discipline qui est épatante finalement parce que, comment on se lance sur 24 heures? C'est quoi l'idée quand on se dit je vais me lancer sur 24 heures quand on passe notamment du 100 km aux 24 heures comme ça?
Alors, l'idée de passer sur 24 heures, c'est vraiment la manifestation, symptomatique de mon ego. Voilà, c'est carrément ça. C'est vraiment de l'ego pur et dur. En fait, moi, quand j'étais en équipe de France de 100 km, c'était vraiment la dream team. On a été champion du monde deux fois. Il y avait des athlètes d'un niveau incroyable. Moi, je n'étais pas le meilleur, loin de là. Et donc voilà. Et de finir 9e d'un championnat du monde, ben, c'est triste à dire, hein, mais ça ne me satisfaisait pas. Parce que moi, j'entraînais Pascal Fétizon qui avait été champion du monde. Et quand on est 9e, on va être 8e. Et quand on est 8e, on va être 5e. Et avec le recul, ça me fait rire. Mais je n'étais pas satisfait d'avoir fini 9e d'un championnat du monde. J'aurais voulu faire mieux. Et donc, peut-être que mon ego n'était pas satisfait de ça, dans une équipe vraiment très très forte. Et je me suis dit, j'avais deux façons à moi de satisfaire mon ego. C'est la durée. J'ai dû faire 7 ou 8 championnats du monde de suite. Donc, c'est de s'inscrire dans la durée comme ça, c'était ma fierté à moi d'avoir toutes ces sélections, d'avoir duré, ce qui n'était pas vraiment le cas des autres. Et puis après, de me dire, mais je peux peut-être être le premier athlète français à être sélectionné sur 100 km et sur 24 heures. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Alors, on est vraiment dans de l'ego pur et dur. On est vraiment dans... Moi, je voulais faire du 24 heures pour être en équipe de France. Donc, vraiment une motivation, on va dire, qui est pas forcément remarquable. On est uniquement sur de la compétition. On n'est pas vraiment sur de l'épanouissement de soi. On n'est pas vraiment dans la Transgaul, par exemple. J'étais vraiment dans un truc très compétitif. Alors, ça peut se comprendre, hein. Mais bon, voilà, enfin, je trouve pas ça forcément très, très glorieux de se dire je monte sur cette discipline, pas parce que je l'aime, mais parce que je veux briller et je veux faire un truc que personne n'a fait. Et elle m'a fait longtemps très peur, cette discipline, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un 24 heures, on court sur un circuit d'un kilomètre. Et là, je peux vous dire que ça me paraissait, mais alors, impossible. Mais moi, quand je vais courir et que je fais trois fois un tour d'un kilomètre, ça me saoule, je n'en peux plus et je m'en vais. D'ailleurs, je le fais jamais. Parce que ça me fatigue, je n'aime pas ça. Et je disais aux gens qui faisaient du 24 heures, mais comment vous faites pour tourner 24 heures sur une boucle d'un kilomètre? C'est le hamster dans la roue, quoi. C'est un truc de dingue. Et les gens disaient, mais en fait, c'est pas comme ça. Tu vois. Et quand j'ai fait la Transgaul, un déclic s'est opéré, je me suis dit, allez, je me lance sur 24 heures, on verra bien, je me lance. Un peu comme je me suis lancé sur 100 km, je me lance et puis on verra bien. Enfin voilà, il n'y a pas mort d'homme. Même si effectivement, je me disais, si je réussis pas, ben voilà, mon ego va en prendre un coup, c'est pas grave. Et là, bingo, dès le premier, comme pour le 100 km, je fais 242 km, je gagne l'épreuve et je gagne ma sélection. Donc, ping, premier coup dans le mille. Tout se passe comme dans un rêve et voilà. Et j'ai tourné sur une boucle d'un kilomètre et ça m'a pas paru long. Et au contraire, ce qui est fou, et je le dis maintenant parce que si des gens nous écoutent et veulent se lancer sur 100 km, j'ai eu la même démarche. En fait, on se dit, mais plus la boucle est longue, moins on s'ennuie. Et en fait, c'est l'inverse. C'est qu'on n'aime pas les boucles longues quand on fait du 24 heures parce que les boucles courtes, c'est comme les 24 heures du Mans. Il y a des stands. C'est-à-dire qu'à chaque tour, on a son ravitaillement, on a ses ravitailleurs, on voit des gens, on voit son staff. Donc en fait, c'est rassurant. Et le fait qu'il y ait une boucle d'un kilomètre, comme on fait en fait abstraction, qu'on tourne sur une boucle parce qu'on oublie, le cerveau oublie, et qu'on est sur tourné pendant 24 heures, être sur une boucle d'un kilomètre, c'est pas un problème. Et surtout, l'avantage, c'est que c'est plat. Parce que je peux vous dire qu'au bout de 4 heures, une pente de 2%, vous avez l'impression que vous montez l'Alpe d'Huez. Hein, parce que c'est vraiment... on se dit, mais c'est pas possible. Ils ont changé le parcours ou quoi. Quand j'ai démarré, c'était tout plat et c'est plus plat. Mais parce qu'en fait, au bout de 24 heures, là oui, on ressent tout ce qui se passe au niveau du parcours. Mais voilà, on court très bien 24 heures sans forcément devenir fou de tourner sur une boucle. Bien au contraire. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est ça qui m'a motivé. C'est cette idée de me dire je pourrais être sélectionné sur 100 et sur 24 heures et je serais très fier de ça. Et oui, c'est vrai qu'après, j'étais très fier d'être sur les deux disciplines.
j'imagine par contre que l'alimentation, que les stratégies sont différentes. Alors là encore, je vois 242 km en 24 heures. Donc si je suis pas trop mauvais en calcul, ça fait du 10 km/h. Hein. On est dans ces zones-là à peu près. Hein.
Et ça fait 6 marathons de suite en 4 fois.
Ouais, d'accord.
Parce que c'est comme les coups de 10 fois 10 km en 40 minutes. On dit, voilà, c'est 6 marathons de suite en 4 heures. Comme ça, les gens. Mais c'est vrai que le calcul se fait plus facilement sur 24 heures que sur 100 km. On divise par 24 et on trouve facilement la moyenne. C'est vrai. Mais après, par contre, sur 24 heures, il y a des arrêts. Mmh. Donc, on vite que 10 km/h pour faire 242 km parce qu'il y a des arrêts incontournables pendant 24 heures. Faut bien, il y a des besoins naturels. Parfois, il faut se changer. Donc, même si à ce niveau-là, on traîne pas en route, il y a quand même des moments d'arrêt. Il faut manger. Là, on peut pas faire 24 heures qu'avec de la boisson énergétique. C'est impossible. Enfin, c'est impossible. Pour moi, en tout cas, c'est impossible. Donc, il y a quelques moments où la course s'arrête pour tout ce qui est logistique et technique.
Oui. Et c'est pareil là, c'est la même logique, c'est-à-dire que où on peut manger du plus comment dire, du plus solide, enfin.
Oui, complètement. Alors moi, je suis quelqu'un je suis assez fragile sur le plan digestif, donc je prends vraiment mes précautions. Mais là, oui, on peut aller vers de l'alimentation solide, mais surtout semi-liquide, des compotes, des soupes pour se réhydrater, des compotes, éventuellement de la purée si on a envie de prendre quelque chose d'un peu salé. Moi, je prenais des soupes miso qui sont réhydratantes et qui sont un peu salées, qui ont un goût sympa. En fait, sur 24 heures, il faut vraiment prendre des choses qu'on a envie de manger. Mmh. Et voilà. Et d'ailleurs, tous ces aliments à base de miel qu'on va utiliser dans l'alimentation, qui vont apporter un petit peu de sucre, permettent aussi, grâce aux vertus du miel, de pouvoir mieux digérer derrière ce qu'on va manger. Alors je suis pas un spécialiste de la question, mais le miel et tous les produits à base de miel ont cette vertu de pouvoir aider à la digestion et donc de manger des choses qu'on va aimer, qui font plaisir, mais qui sont pas forcément aussi digestes que certains aliments. Mais il est important de se faire plaisir et de satisfaire aussi le goût qu'on a pour les aliments quand on court pendant 24 ans. Et parfois on a envie de salé, donc le salé est pas forcément toujours très très digeste.
Oui, parce que j'ai envie de dire, en plus, il y a des moments où bon, on court de nuit, avant le départ, bon, les conditions peuvent être très variables, hein, en fait, à un moment donné, donc il faut aider, j'imagine, il y a le corps, le mental, faut gérer le niveau du ventre, que ça gargouille pas, je sais pas comment le dire, mais que ça peut jouer des tours, ces histoires-là, en fait.
Complètement, oui, complètement. Ça peut anéantir une course. Donc il y a vraiment, là encore, toute une préparation en amont, pendant les sorties longues, pour préparer l'organisme à toutes ces choses-là. Il faut vraiment prendre des produits qui sont très digestes, qu'on assimile très bien, qui ont vraiment une très grande digestibilité. Donc là encore, plutôt que de bricoler ou plutôt que de faire ma propre cuisine, moi je me tourne vers les professionnels, vers des gens qui ont conçu, élaboré des produits qui sont à la fois énergétiques, qui sont très digestes. On a maintenant des produits qui se digèrent à une vitesse incroyable. Enfin, moi, j'ai connu l'époque où les marathoniens se levaient à 2h du mat pour manger une assiette de nouilles. Maintenant, même le kidam moyen sait qu'une heure avant, il va prendre, alors on n'a peut-être pas le droit de citer les marques, mais on va prendre le gâteau Intel. Et on sait qu'une heure après, il est digéré et on peut aller courir. Donc, ce genre d'aliment qui se digère extrêmement vite avant l'épreuve, on va le prendre en petite quantité pendant l'épreuve. bien sûr, le morceau de gâteau sport, on va le prendre. Enfin, moi, je le prends, je le mets dans ma bouche, je laisse fondre pour qu'il soit bien digéré. Je ne vais pas avaler ça comme un morphal et je vais prendre des précautions. Mais tous ces aliments qui sont hyper digestes permettent justement de continuer à courir tout en mangeant. Alors, des petites quantités, souvent, qu'on va bien prémâcher, qu'on va bien digérer, qu'on va bien laisser dans la bouche pour que la digestion se fasse bien. Et si on a testé tout ça à l'entraînement et que ça se digère bien, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je ne m'arrêtais pas beaucoup pendant 24 heures, en tout cas pas spécialement pour manger, sauf si effectivement c'est une purée où il faut prendre un gobelet avec une cuillère parce que là, forcément, ça ne s'ingère pas facilement. Ou là, on va marcher un petit peu pour prendre le temps de la manger correctement. Mais maintenant, avec les aliments qu'on a à disposition, on peut vraiment... Avoir une stratégie nutritionnelle très, très efficace.
Oui, puis alors moi je me dis, ma fille, on a un petit truc pour lui faire des gourdes de compote avec un remplisseur de petites gourdes de compote. Je me dis, ça se trouve une purée un peu liquide, ça pourrait passer dans sa truc pour fabriquer les propres gourdes qui se referment. Je me dis, pourquoi pas, à la limite, ça peut être une idée. Hein. C'est vrai que moi je cherche des pistes, je cherche des idées, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qu'on peut manger? Alors bon, 24 heures, j'ai pas trop l'idée de faire ça, même si j'en vois au club qui sont sur ces distances-là, et même si on en connaît qui préparent ces distances-là. C'est vrai qu'on cherche un petit peu toutes les stratégies, finalement, il y a beaucoup de choses à tester. C'est un véritable entraînement, ce qu'on disait, pour arriver finalement à établir sa stratégie au fur et à mesure, quoi.
C'est ça, et c'est très personnel, c'est-à-dire que Moi, j'ai coutume de dire aux gens, testez. N'écoutez pas un tel ou un tel qui va vous dire, Yaka, Faucon. Non. Chacun est différent. Ce que l'un va aimer, l'autre n'aimera pas. Ce que l'un va digérer, l'autre ne le digérera pas. Il faut faire sa propre expérience pour les picorer, c'est le cas de le dire, des idées un peu partout. Et puis, tester par soi-même les petites compotes, les petites gourdes qu'on va remplir de son produit qu'on connaît bien. C'est une très, très bonne stratégie, très pratique à stocker et très pratique à ingérer parce qu'en fait il faut imaginer que quand on part sur 24 heures dans un stand on emmène à manger pour 24 heures donc il faut que ça soit moi j'emmenais une colonne avec des tiroirs dans lesquels j'allais chercher tel ou tel produit enfin mes assistants allaient chercher tel ou tel produit donc la petite gourde de compote c'est hyper pratique c'est pas sale c'est propre c'est parfait pour ingérer soit de la compote, soit autre chose qu'on va mettre à la place. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce truc, qui est un très très bon truc d'ailleurs.
Et j'ai envie de dire, est-ce que dans ce genre de, que ce soit les 100 km, les 24 heures, mais même des distances plus courtes, est-ce qu'on peut se faire tromper par son corps sur, je pense notamment peut-être au début, qui ne dirait pas qu'il a faim, ne dirait pas qu'il a soif, ne réclamerait pas de carburant, alors que pourtant il commence déjà d'avoir besoin. Et est-ce qu'il faut prévoir, ou peut-être dès le début, quand je commence à m'alimenter, ou à quel moment, en fait, il faudrait commencer à s'alimenter dans ces cadres-là?
Alors, moi, au niveau de l'alimentation solide, je conseille le moins possible. Parce que bien souvent, le corps, c'est le cerveau qui dit « c'est l'heure, là, d'habitude, je mange, donc j'ai faim ». Mais il n'y a pas vraiment cette nécessité absolue. Physiologiquement, il n'est pas nécessaire de manger du solide, c'est ce que je dis aux gens. Si ça vous fait plaisir, si vous arrivez à le digérer correctement, faites-le. Mais c'est plutôt le cerveau qui vous envoie un message en disant « d'habitude, je mange à cette heure-là et je mange un truc où je mastique ». J'écrase l'aliment. Donc c'est un besoin, je dirais, un peu un réflexe conditionné. Donc le solide, il n'y a pas de nécessité absolue. Après oui, si on commence vraiment à avoir faim et qu'on sent que l'estomac réclame, un truc solide qu'on va bien mastiquer, on peut le faire. Mais là, c'est plutôt en fonction des messages que nous envoie notre système digestif et surtout notre cerveau. Ça, c'est pour les aliments solides. Par contre, pour tout ce qui est liquide, alors là, oui, on peut aller directement dans le mur, c'est le cas de le dire, on peut directement aller dans le mur si on attend d'avoir soif pour boire. Ça, c'est la chose à éviter absolument. Quand on attend d'avoir soif pour boire et qu'on boit quand on a soif, il est trop tard. La déshydratation est déjà enclenchée. Et comme la lutte contre la déshydratation est un combat perdu d'avance, c'est fini, c'est déjà perdu. On est déshydraté, c'est fini, on ne rattrapera pas le retard. Et donc là, la course, elle est totalement hypothéquée. Donc, ce que je conseille, moi, c'est la règle des 500 à 1 litre par heure dès le début de la course. Et dès la première heure. C'est-à-dire que sur un quart d'heure, c'est facile. Sur un quart d'heure, c'est très facile. Mm. C'est ça aussi l'avantage des tours. À chaque tour, on voit. Sur un 100 km, il faut se souvenir que, ah tiens, ça fait 5 minutes, ah tiens, ça fait 10 minutes. Donc, alors, je sais pas, chaque kilomètre, chaque 2 km, mais dès le début, même quand on n'a pas soif, et on n'aura pas soif, on boit. Ça, c'est impératif pour ingérer, parce que mine de rien, 500 ml à 1 litre par heure, il faut les ingérer. Donc, dès le début, on boit.
Voilà. Bon, je comprends mieux le petit rappel que j'ai sur ma montre, parce que je peux programmer un rappel qui me dirait, bah, rappel hydratation, rappel nutrition. J'ai des rappels sur les montres comme ça qui sont oui. Là, qui servent à ça aussi, finalement, pour ceux qui seraient un peu tête en l'air.
C'est ça. Sauf que, par expérience, sur un 100 km, on va perdre de la lucidité. À un moment, on perd de la lucidité. On n'est plus en capacité de se dire, ah, tiens, ça fait 5 minutes. Et là, la montre va nous rappeler à l'ordre. Le suiveur, si on a la possibilité d'avoir un suiveur en vélo, moi, je disais à mes suiveurs, toutes les 5 minutes, tu me tends le bidon. Et je bois. Et si je ne veux pas boire, je bois quand même. Parce que je sais qu'à un moment, je vais dire, non, je n'ai pas soif. Non, j'en veux pas. Non, ça m'énerve. Non, tout m'énerve. Non, voilà. On a une perte, on a une altération à des facultés. Voilà, parce que le corps est tellement absorbé par l'effort que la concentration vient là-dessus. Le cerveau est peut-être un peu moins irrigué au niveau... au niveau glucose, je sais pas, je connais pas assez les fonctions profondes du corps humain pour répondre à ça, mais ce que je sais, c'est qu'on perd de la lucidité, et moi, le conseil que je donnais à mes suiveurs, c'était, toutes les 5 minutes, tu me tends le bidon. C'est vrai que ça revient vite, hein. Alors on peut dire toutes les 10 minutes et boire une plus grosse gorgée. Moi, je préférais toutes les 5 minutes une petite gorgée que toutes les 10 minutes une gorgée plus importante. Mais souvent, les gens boivent tous les 15 minutes, toutes les 20 minutes, et pour boire 500 ml par heure, toutes les 15 ou 20 minutes, il faut vraiment prendre plusieurs gorgées et c'est moins confortable. Donc voilà, donc le coup de la montre qui bip, c'est très bien. Le coup du tour tous les kilomètres sur 24 heures avec le suiveur qui va tendre le bidon, c'est très bien, c'est un rappel. Mais oui, il faut essayer de se fixer des trucs qui vont rappeler qu'il faut boire de manière régulière.
Alors moi j'ai une question qui m'est venue, mais comme ça, qui est pas du tout sur ma liste de questions. De toute façon, j'ai pas beaucoup de listes de questions, mais je me dis quand même, après des efforts de ce qui ont une certaine violence dans la durée de l'effort, dans la vitesse, etc. On sait que pendant la course, il y a des lésions sur les intestins, c'est pas un cadeau quand même la course pour le ventre, hein, même après autant de carrière. Comment on en ressort finalement? Comment on récupère de tels efforts? Est-ce qu'il faut d'ailleurs avoir une stratégie d'alimentation spécifique juste après pour, parce que sinon on sait que ça va repartir dans le mauvais sens. Là aussi il y a des trucs spécifiques, des entraînements ou des choses comme ça à prévoir.
Alors pas forcément d'entraînement parce que autant on peut répéter la stratégie de course et bien cibler les produits qu'on va le mieux supporter, autant après la course il n'y a pas vraiment de stratégie. Enfin, ce qu'il faut manger ou ce qu'il faut boire est très important. Après tel ou tel produit, ça n'a pas vraiment une grande importance. La première chose à faire, puisqu'on a lutté, on a engagé ce combat perdu contre la déshydratation, la première chose à faire, c'est se réhydrater le mieux et le plus vite possible. Ça, c'est la base. Alors, je ne vais pas dire que tout est bon, mais presque. Le mieux, c'est une boisson qui va contenir tout ce qu'on aura perdu en magnésium, en sodium, surtout sodium. Hein. Donc, une boisson qui contient beaucoup de sodium sera à privilégier. Ça va permettre de se réhydrater, mais aussi de récupérer toutes les pertes en électrolytes. Hein. Ça, c'est important. Donc, une boisson avec beaucoup de sodium. Souvent, dans les heures qui suivent, comme vous l'avez dit très justement, le système digestif qui n'est pas fait pour fonctionner en courant, et il n'est pas fait pour fonctionner en courant parce que toute l'énergie, tout le sang va vers les muscles et les organes prioritaires, le cerveau, les poumons, etc. Donc, le corps, l'humain, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il privilégie les organes prioritaires, le cerveau, les poumons, le cœur, et puis les muscles, puisque c'est ce qu'on demande. Donc, toutes les parties qui ne sont pas hydratées, toutes les parties qui ne sont pas vitales ne sont pas ou moins hydratées. C'est aussi pour ça que le système digestif fonctionne moins bien, parce qu'il n'est pas bien vascularisé. Et on fait souvent ce qu'on appelle des ischémies mésentériques, c'est-à-dire qu'en fait, on est déshydraté et le système digestif ne fonctionne pas bien. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, des petites blessures, des petites lésions qui sont dues aussi au choc. Donc, après la course, on va pas faire un festin de roi parce que dans les heures qui suivent, le système digestif, il est un peu atteint et il a plutôt envie, on a plutôt besoin de récupérer, de le revasculariser, donc de l'hydrater. Et puis dans les heures qui suivent, en fonction des individus, on sent hein, la faim qui revient. À l'arrivée d'une course, on n'a pas faim. Donc c'est pour ça que c'est aussi important à la fois de boire une boisson qui va contenir des sodiums, mais aussi de prendre une boisson qui contient de l'énergie. Donc la boisson énergétique ou la boisson protéinée qu'on aura utilisée pendant la course, on peut et on doit l'utiliser pour se réhydrater après. Le fait aussi qu'il y ait des acides aminés ramifiés dans la boisson, des protéines, c'est vrai que l'idéal, hein, on a aussi des dommages musculaires quand on court longtemps comme ça. Donc l'idéal, ça serait de prendre une très bonne entrecôte, mais sauf que la très bonne entrecôte va avoir du mal à passer. Il vaut mieux attendre quelques heures et puis un bon verre de vin rouge, mais on en profitera plus. Donc les boissons qui sont très riches en acides aminés ramifiés de bonne qualité, parce qu'il y a des boissons qui n'ont pas forcément des acides aminés ramifiés de bonne qualité, vont être à privilégier pour refaire le plein de protéines, pour aider à reconstruire toutes ces fibres qui, par la répétition des chocs, ont été lésés. Quand on a très mal aux jambes après une course de 200 km ou après un marathon, c'est pas parce qu'on a de l'acide lactique. Souvent les gens disent « Ah, oh, j'avais de l'acide lactique ». Non, c'est absolument pas ça. Hein. Y a que Kipchoge qui a de l'acide lactique sur un marathon. Les autres, on n'a pas l'acide lactique, mais on a des dégâts musculaires. Ce qu'on ressent, les courbatures, c'est dû aux dégâts musculaires qui ont été générés par la répétition des chocs. Donc là, prendre une boisson avec de très bons acides aminés ramifiés, ça va aider à récupérer beaucoup plus vite. Et dans les heures qui suivent, la stratégie alimentaire, elle est hyper importante parce qu'il y a ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. Le corps humain, il est bien fait. Dans les heures qui suivent, voire dans les minutes qui suivent, le corps humain, il a une appétence pour tout ce qu'on va lui donner. C'est-à-dire que c'est là qu'il va refaire le plus vite et le mieux le stock de glycogène. Donc tout ce qui est boisson énergétique, tout ce qui est boisson protéinée, sera beaucoup mieux assimilé que 2, 3, 4, 5, 6 heures après. Donc, dans les heures qui suivent, ouais, on peut se boire une bonne bière, il n'y a pas de souci, mais c'est bien aussi de privilégier les boissons qui vont participer à la récupération.
On a beaucoup parlé de la compétition, etc., mais qui dit compétition dit aussi beaucoup d'entraînement. Et là aussi, le carburant pour bien s'entraîner est vital, bien entendu, parce qu'il faut nourrir le corps, il faut nourrir la machine, etc. On pourrait en parler des heures, mais en fait, je voulais juste plutôt demander, est-ce qu'il y a quelques conseils au quotidien pour bien, on va dire, nourrir le corps au quotidien, pour se dire je fatigue pas mon corps, j'ai pas de la surfatigue, les entraînements vont bien passer, je vais bien le reconstruire après. Ça serait quoi en fait un petit peu la logique à adopter?
Pour moi, la logique de la compétition, c'est la logique de mon quotidien en fait. C'est une alimentation la plus naturelle possible. Donc j'essaye de fuir, parce que j'ai pas besoin de les fuir, je les prends pas, mais tout ce qui est alimentation industrielle est selon moi à éviter ou à proscrire, parce que elle ne sera pas de qualité suffisante, et en plus pour l'assimiler on va fatiguer l'organisme. Une alimentation qui est très industrielle sera une alimentation qui sera acide, donc on va peut-être pas rentrer dans le détail de l'équilibre acido-basique, mais un corps qui est fatigué peut parfois l'être parce qu'il est mal nourri. Parce qu'il est nourri par des aliments de mauvaise qualité. Donc moi, je privilégie les aliments le plus naturel possible au quotidien, et j'évite justement de fatiguer mon organisme encore plus que ce que je le fatigue par l'entraînement. Autant mon organisme, il est capable de s'adapter aux charges d'entraînement que je vais lui imposer, si je le fais en l'écoutant et progressivement, autant mon organisme, je suis très en forme, mais si demain j'ai une alimentation très salée, très, très industrielle, très chimique, je vais être fatigué parce que mon organisme, il n'est pas en mesure. Je ne crois pas que l'être humain, enfin, si, bien sûr, il y a des êtres humains qui sont capables de s'adapter. De toute façon, le corps humain a des facultés d'adaptation extraordinaires. Donc, il y a des êtres humains qui mangent de l'alimentation industrielle et chimique tous les jours et qui pour autant, même s'ils ne sont pas en super forme, ne sont pas non plus au fond du gouffre. Parce que justement, le corps humain s'est adapté, mais je pense que c'est une mauvaise adaptation qui coûte cher et qui, quand on fait du sport, est rédhibitoire, à mon avis. Les corps qui s'adaptent à cette alimentation industrielle et chimique ne sont pas des corps à qui on réclame beaucoup d'efforts. Parce que si on réclame beaucoup d'efforts au corps, il n'est pas en mesure de faire les deux. Moi, je réclame beaucoup d'efforts à mon corps, donc je vais le préserver en lui donnant des aliments sains, des aliments naturels, avec le plus de choses voilà, qui vont venir du jardin, qui vont venir, alors pas forcément bio, mais le moins chimique possible en tout cas.
Oui, et puis la transformation finalement, on la fait dans notre cuisine plutôt que de la faire dans l'industrie où on se rend pas compte du nombre d'aliments, du nombre d'ingrédients qu'il peut y avoir dans certains plats préparés. C'est juste hallucinant. Un cordon bleu peut avoir jusqu'à 30 ingrédients différents sans que s'en rendre compte. Ce qui est juste dingue quand on y pense, alors que effectivement notre corps doit lutter en fait pour arriver à les digérer.
C'est ça. Il doit lutter, il se fatigue, il utilise de l'énergie, sans compter cette notion d'acidification de l'organisme. Notre nourriture moderne ne permet pas de respecter ce qu'on appelle le pH humain, donc cet équilibre acido-basique. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'avaient pas de problème d'équilibre acido-basique. Ils mangeaient l'alimentation de leur jardin, ils mangeaient en local, parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas se déplacer, donc ils n'allaient pas acheter un truc à 15 km. Nous, maintenant, oui, on va manger des choses qui sont chimiques, qui vont déséquilibrer notre équilibre acido-basique. Et le corps humain, il est bien fait. Cet équilibre acido-basique, il passe son temps, lui, à le rectifier. Et donc, si on a une alimentation trop industrielle, trop chimique, on va apporter beaucoup trop d'aliments acidifiants, pas assez d'aliments alcalinisants. Et notre corps, il n'a pas le choix. Il va toujours équilibrer son pH. Donc les bases alcalines, il va aller les chercher quelque part. Souvent c'est dans les os, hein, c'est dans le squelette. Et donc ça demande de l'énergie au corps déjà. Et puis ça puise dans les réserves. Et on se retrouve avec des fractures de fatigue, on se retrouve avec de l'ostéoporose, enfin des maladies qui n'existaient pas avant et qui sont les maladies actuelles parce que notre alimentation est déséquilibrée, chimique et industrielle.
Oui, parce que
bien au-delà du sport. Enfin, oui. Pour moi, l'alimentation, c'est pas je prépare un 100 km, je m'alimente bien. Moi, l'alimentation, c'est un mode de vie au quotidien. Et ce que je dis souvent aux gens, la notion de régime, elle n'a pas de sens. Quand j'ai compris à quel point l'alimentation était importante, je n'ai pas mis en place de privation, je n'ai pas mis en place de régime. Je me suis juste dit, il va falloir, parce que j'ai pas été élevé à manger forcément des aliments sains et naturels pour des raisons familiales. Mais j'ai vite compris que je devais déplacer les plaisirs. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai déplacé les plaisirs. Et maintenant, je prends plaisir. Je n'ai pas besoin de me forcer à manger des aliments qui sont sains, naturels et pas forcément industriels. Donc, si c'est un combat au quotidien, parce qu'on a une compétition et qu'on change sa façon de s'alimenter juste pour la compétition, pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Enfin, c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas au mieux.
Alors, alimentation plaisir, j'ai dans ma liste quand même des trucs. On parle, alors surtout dans la muscu, dans le sport, on parle et dans, alors je parle des régimes aussi parce qu'on en parlait, mais des fameux cheat meals, des repas loisirs un peu plus gourmands, etc. Mais finalement, pour Bruno Hobby, c'est quoi un repas plaisir finalement qui quelque chose qui vous, je sais pas qui. Je peux pas dire plus gourmand que les autres, mais qu'est-ce qui dans votre plat préféré par exemple?
Je ne sais pas si je saurais le dire. Moi, j'adore les légumes, mais les légumes vapeur nature. C'est-à-dire que j'ai vraiment développé cette capacité à trouver du goût dans les aliments. Et tout ce que je vais rajouter, pour moi, va modifier le goût. Donc, j'ai dans mon frigo, là, des choux romanesco. Je vais les faire cuire à la vapeur et je vais les grignoter comme ça, sans rien rajouter. Et je trouve ça bon. C'est-à-dire, je ne m'oblige pas à les manger comme ça. Donc voilà. Après, je suis un peu pris de court. Je trouve pas forcément mon plat favori, mais je trouve que voilà, y a plein d'aliments qui sont des aliments plaisir, que ce soit dans les légumes ou que ce soit dans les céréales, par exemple. Moi, j'ai été élevé à manger du riz et des pâtes. En fait, il y a tellement d'autres choses à manger, du quinoa, du boulgour, du fonio, et ce sont des aliments qui ont du goût, qui sont bien meilleurs que nos aliments raffinés, qui n'en ont, qui n'en ont, absolument aucun. Le pain, c'est la même chose. Un bon pain au petit épeautre, mais ça se mange comme un gâteau, quoi. Moi, je le mange comme un gâteau. Alors que la baguette blanche industrielle, je ne peux pas la manger. Je ne peux pas. Et j'ai été élevé à manger des baguettes industrielles. Hein. Je n'ai mangé que ça pendant toute mon enfance. Bah, parce que c'était l'époque et parce que dans mon milieu familial, voilà, on mangeait comme ça. Mais il y avait aussi, voilà, mes parents, quand ils parlaient de pain noir, c'était pas forcément quelque chose de positif. Maintenant, quand on parle du pain noir, c'est presque devenu à la mode. On disait il a mangé son pain blanc. Maintenant, c'est presque l'inverse. Moi, quand je mange mon pain blanc, c'est pas bon signe, quoi. C'est l'inverse. Donc voilà, et je trouve que ces aliments-là sont vraiment beaucoup plus goûteux, sont vraiment l'expression de quelque chose de bon, vraiment de bon sur le plan gustatif.
Oui, et puis je ne peux que valider l'histoire du pain de petit épeautre, parce que c'est ma petite tradition du samedi avec ma fille, on va chercher ça au marché, on a un boulanger qui vient le samedi au marché avec son pain de petit épeautre, et je confirme hein, ce côté, le manger comme un gâteau. Oh, ah oui. même si des fois on y met bien quelque chose de plus dessus hein, tranquillement pour tartiner des petits trucs, mais c'est vrai hein, que ça fait partie aussi des choses qu'on oublie hein, qui ont beaucoup plus de goût que le pain blanc et qui en plus apportent beaucoup plus au corps hein, dans les éléments dont il a besoin pour fonctionner et fonctionner surtout pour un sportif quoi.
Mais c'est ça en plus, c'est-à-dire que non seulement c'est meilleur et en plus nutritionnellement c'est plus intéressant, donc voilà pourquoi manger du pain blanc qui n'apporte aucune, qui n'a pas de qualité nutritionnelle, qui n'est pas bon au goût selon moi, et qui en plus est acidifiant. C'est-à-dire qu'en plus, il va acidifier l'organisme, il ne va pas l'alcaliniser. Donc là, pour moi, alors je ne veux pas m'acharner sur le pain blanc, hein, j'ai plein d'amis qui sont boulangers, mais franchement, c'est typiquement l'aliment qui, pour moi, est à proscrire. Il n'a aucun avantage, alors qu'à l'inverse, gustativement, nutritionnellement parlant, on va avoir des choses qui sont 10 fois plus intéressantes. Donc, c'est même pas une question d'intégrisme. Je crois que c'est juste une question de bon sens. C'est pas une question de chapelle, mais enfin, moi, c'est vraiment une question de goût et de bon sens pour moi.
Alors, j'ai dans ma petite liste de questions pour finir les épisodes, comme ça, je regarde un petit peu mes trucs, je dis, est-ce qu'il y a un petit conseil avant un entraînement, alors, quelle que soit la durée de l'entraînement, mais bien sûr, suivant la durée, ça va un petit peu changer, mais est-ce qu'on peut s'alimenter, on a bien compris un peu le sens, hein, mais est-ce qu'il y aurait une petite astuce pour celui qui peut-être d'ailleurs il a besoin de se sentir rassuré, de se dire je vais pas pouvoir courir si je mange pas un petit truc avant, si je bois pas un petit truc avant, une petite boisson, etc. Est-ce qu'il y aurait un petit truc à lui donner comme ça, à nous donner pour dire voici une bonne petite collation qui passe bien à l'entraînement si on a peur d'avoir faim quoi.
Alors ça va dépendre du contexte. Est-ce que l'entraînement est tôt le matin? Est-ce que c'est l'entraînement du midi? Est-ce que c'est l'entraînement de fin de journée? Depuis combien de temps est-ce qu'on n'a pas ingérer quelque chose, je sais pas. Alors, est-ce qu'on a le droit, je sais pas si on a le droit de donner des noms de marques
Oui, bien sûr, on peut y aller. Hein.
Bah, voilà. Donc moi, ça va dépendre en fait, du moment de cet entraînement. C'est la première question que je poserai. Est-ce que c'est un entraînement très matinal, plutôt le midi, plutôt le soir? Parce qu'en fait, la stratégie pré-entraînement, elle va varier en fonction du moment de l'entraînement. Moi, par exemple, le matin, si je m'entraîne très tôt et que je suis à jeun depuis la veille, je vais prendre plutôt quelque chose d'assez liquide qui va contenir des nutriments qui vont me permettre de rétablir la glycémie qui a chuté pendant la nuit, parce que la glycémie, elle a un peu chuté. Donc, je vais prendre plutôt quelque chose de liquide qui a un goût de chocolat sympa et qui va juste me permettre de refaire le plein de ce que j'aurais ingéré. Donc, Chez Fenu, par exemple, ils ont une boisson chocolat qui est top pour ça. C'est de la poudre. Hein. Alors, on va me dire, c'est un peu chimique, mais toutes les poudres ne sont pas aussi chimiques les unes que les autres. Et là, je vais privilégier quelque chose de chocolaté, d'un peu goûteux, mais liquide, que j'aurais digéré très rapidement. Si c'est un entraînement le midi et que je n'ai pas mangé depuis 2 ou 3 heures et qu'effectivement, j'ai peur de ne pas avoir assez d'énergie, ben voilà, il y a le gâteau sport de chez Happy Run là, qui est dans un pot de confiture. Il est goûteux, il se digère super vite. On peut le couper dans le pot, grignoter un ou deux morceaux en fonction de la faim qu'on a. Moi, je suis gourmand. Souvent, le gâteau il passe en entier parce qu'une fois que je mets le nez dedans, j'arrive pas à m'arrêter parce que c'est très bon et parce que c'est très léger. Mais une heure après, je vais courir et voilà, je l'ai digéré. j'ai fait le plein, je me suis rassuré, j'ai mangé un petit peu, je sais que je pars pas sans aucune énergie. Donc ça va être un petit peu différent en fonction du moment et de l'heure à laquelle on va faire l'entraînement dans la journée.
Est-ce que alors c'est en discutant avec les sportifs, avec les coureurs, j'ai souvent ils m'annoncent souvent un petit secret inavouable, un petit truc qui leur fait plaisir des fois dans l'effort, etc. Est-ce qu'il y a un petit truc que Bruno Obi prend des fois qui lui fait plaisir parce que à un moment donné il y a plus rien qui veut avancer, etc. Il y a une espèce de petit truc qu'on dit pas trop mais qui fait du bien au mental et au corps comme ça ou pas?
Oui, il y a quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit. Alors c'est je pense que ça va répondre précisément à la question parce que c'est quelque chose que je n'utilise, enfin que je ne bois, que je ne consomme jamais tout au long de l'année et qui m'a sauvé à plusieurs occasions dans des moments un peu de galère ou de difficulté, notamment quand j'ai fait l'intégrale de Riquet. Donc c'est une très très belle épreuve qui part du phare des Onglouts en Méditerranée et on remonte jusqu'à Toulouse. Donc on fait c'est Christian Reyna qui avait organisé cette course. Je sais pas s'il y a encore lieu. Donc en fait, on va courir l'intégralité du canal du Midi. Du phare des Onglouts jusqu'à Toulouse, patrimoine mondial de l'UNESCO. On passe le long des écluses, c'est juste extraordinaire. Sauf que ça a lieu en juillet et qu'on part le matin et que donc là on a des problèmes de coups de chaud et de déshydratation très importantes. Et dans cette course, mais ça m'est déjà arrivé à d'autres moments, il y a une boisson qui pour moi, mais il n'y a pas que pour moi, est miraculeuse. C'est la boisson au cola.
D'accord.
Alors ça peut être Pepsi, ça peut être Coca, ça peut être du Brest Cola, peu importe. Voilà, il n'y a pas que Coca dans la vie. Y a aussi Pepsi, il y a aussi d'autres. Mais la boisson au cola, c'est juste une tuerie. C'est un truc incroyable. Quand plus rien ne passe, je prends cette boisson et je retrouve de la vitalité assez vite. Alors la composition explique ça parce que en fait cette boisson au départ, elle était faite pour les malades. Pas dire de bêtises. Par contre, au fur et à mesure de l'effort, il m'est arrivé de la prendre pure, voilà, comme ça, très vite, parce que sans doute j'étais un peu déshydraté. En plus, ça hydrate plutôt très bien. Alors, c'est quand même un truc de dingue, parce que c'est une boisson qui est hyper sucrée, donc qui est hyper acide. Alors, ouais. C'est un truc qui, au quotidien, il faut l'éviter absolument. Mais en course, c'est miraculeux. Après, au fur et à mesure de la course et de la déshydratation, parce que ça ne réhydrate pas tant que ça, je la coupe de plus en plus parce qu'il y a trop de sucre, parce qu'il y a trop de concentration. Donc en fait, cette boisson au cola, je vais la prendre pure et après je vais la couper de plus en plus ou la couper d'emblée. Mais franchement, c'est assez incroyable le rétablissement que ça peut procurer, alors que je n'en bois pas une goutte tout au long de l'année.
Oui, mais c'est ça en fait le secret. C'est vraiment le genre de secret. Je voulais savoir. Par contre, alors on m'a glissé à l'oreille que vous étiez un fan de maté. C'est vrai?
Ouais. Alors maté, kombucha, toutes ces boissons. Oui. C'est vrai que je j'aime bien parce qu'une fois de plus, c'est des boissons qui permettent. Un peu comme le pain, un peu comme ces aliments ancestraux en fait. À la fois c'est bon et à la fois ça apporte de bonnes choses. Je vois par exemple la kombucha ou toutes ces boissons comme ça, ou kéfir ou maté, enfin toutes ces boissons là, je trouve que c'est bon, mais c'est aussi quelque chose qui va apporter quelque chose à l'organisme. Donc c'est le double effet quoi. C'est bon et c'est positif. Donc alors je suis plutôt un fan de ce que vraiment j'aime beaucoup, c'est la kombucha. Alors toutes les kombucha ne se ressemblent pas. Moi, je recommande vraiment il y a vraiment une que je consomme quasiment exclusivement d'ailleurs, avec des parfums très sympas. Et donc c'est bon, c'est rafraîchissant, c'est pétillant. La pétillance, elle est naturelle, hein, ça fermente dans la bouteille. Et puis ça fait du bien à la flore intestinale. Donc une fois de plus, c'est bon, ça déshydrate, ça fait du bien au corps. Donc aucune raison de s'en priver.
Et ben voilà, et ben on a fait un très bon tour hein, de ces petits conseils, c'est passionnant hein, de s'intéresser à ces sujets-là parce que c'est vrai que comme on disait hein, la Ferrari sans essence elle va pas très loin, mais la deux chevaux non plus d'ailleurs hein, que moi je suis plutôt deux chevaux dans ma méthode de course, mais chacun ses vitesses.
C'est incroyable.
Oui, bah oui, c'est ce qu'on me dit aussi.
C'est deux chevaux, il n'y a que deux chevaux, mais vous pouvez rouler pied au plancher, vous pouvez traverser la France, vous pouvez faire la Transgoule en deux chevaux, pied au plancher, je l'ai fait. il y a très longtemps. C'est increvable une 2 chevaux. C'est increvable. Et ça ne consomme pas beaucoup.
Voilà, et ben c'est ce qui va me rassurer dans cet épisode. Je vais me dire que je suis une 2 chevaux et je suis increvable. En tout cas, ben merci de me le dire parce que alors vraiment je me dis bon maintenant j'ai tous les éléments pour optimiser on va dire ma 2 chevaux sur ce plan alimentaire. C'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement passionnant et je pense que c'est vraiment aussi pour ça qu'on voulait s'y intéresser dans ce podcast parce que il y a tellement de choses à découvrir et qu'on a oublié parce que c'est vrai qu'on disait l'industrie, les produits industriels, etc. Mais on oublie en fait qu'on a tout ça sous la main, quoi.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je regardais il y a quelques jours là le film, le très beau documentaire de Guillaume Canet, enfin commenté par Guillaume Canet. Oui, mais en plus on a tout oublié, mais c'est pas il y a 3 siècles, c'est il y a quelques dizaines d'années. C'est incroyable d'ailleurs à quel point notre agriculture, notre alimentation, tout a basculé après la Seconde Guerre mondiale. Cette accélération, elle a été foudroyante. On est heureusement en train de revenir petit à petit en arrière, mais on a oublié des choses qui sont pas si vieilles que ça et si ancestrales que ça. Mais ouais, la vie s'est accélérée à l'industrialisation, ces transformations se sont accélérées à une vitesse stupéfiante, beaucoup trop vite d'ailleurs. Et ouais, on a oublié, mais c'est pas si vieux en fait.
Alors, pour finir, j'ai 2 petites questions. C'est est-ce que finalement vous avez des, est-ce que vous avez encore des compétitions? Est-ce que vous allez encore sur des compétitions? Est-ce que vous avez des objectifs, des choses comme ça?
Oui, tout à fait. Alors bon, évidemment, le confinement a mis à mal pas mal de programmation. Je rêvais de faire les 100 km de Millau l'année dernière pour mes 60 ans et 15 ans après ma victoire. Je me disais que ça aurait été vraiment symbolique 15 ans après l'avoir gagné et à 60 ans de revenir courir cette course. Malheureusement, la course a été annulée en raison, pour les raisons que l'on connaît. Et donc, je pense, j'aimerais bien revenir une fois encore à Millau où voilà, c'est vraiment la course de mon cœur. J'avoue que sur les autres courses à pied, j'ai plus trop de motivation. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour de la question. Et là, je me lance plutôt sur des épreuves en cyclisme. J'ai toujours beaucoup aimé le cyclisme et je ne pouvais pas le pratiquer parce que quand j'ai commencé à en faire, j'avais 2 licences quand j'avais 15 ans, une licence de vélo et une licence de course à pied. J'étais licencié dans 2 clubs et très vite on m'a dit ces sports-là. Et donc là, c'est pareil. Hein, je suis pas très jeune, mais je suis pas non plus un fossile, on disait non, ces sports-là sont incompatibles, tu dois choisir. Donc voilà, le vélo, sport technique, matériel, en course à pied, je me débrouillais bien, j'ai choisi course à pied. Maintenant, on sait que ces sports-là, non seulement ne sont pas antinomiques, mais sont compatibles. Donc depuis quelques années, je retrouve avec plaisir le vélo et j'ai participé à l'étape du Tour. Donc je participe, je me prépare pour des épreuves plutôt au long cours en vélo, aussi pour des triathlons. L'idée, c'est aussi de varier un peu les plaisirs, de faire ce que j'ai pas pu faire pendant ma carrière. Je me suis entraîné jusqu'à 14 fois par semaine en course à pied. Très honnêtement, j'adore la course à pied, mais quand on le fait entre 10 et 14 fois, il y a un moment où on y va comme on va au travail, quoi. Donc là, je suis vraiment dans quelque chose d'encore plus plaisir qu'avant. Et le plaisir, pour moi, maintenant, c'est la course à pied, la natation, le vélo, pratiquer différents sports, être dans différents environnements et découvrir encore d'autres choses que je n'ai pas pu faire pendant toute ma carrière où la course à pied était la seule et unique de mes préoccupations. Donc des objectifs, un Half Ironman au mois de septembre, si tout va bien, à Nice, et puis des épreuves au long cours en cyclisme au mois de juin, au mois de juillet.
Et bon, on va suivre ça avec intérêt. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut vous suivre sur Internet et sur les réseaux sociaux?
Alors, on peut me suivre sur mon site Internet, hein, www.brunohuby.com. Après, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Il y a aussi ma chaîne YouTube sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup de vidéos avec beaucoup, beaucoup de conseils. J'aime bien partager, j'aime bien transmettre. Et je trouve que la vidéo, c'est vraiment un moyen de partager plein de choses. Donc sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup beaucoup de vidéos avec des conseils, avec des petits tutos. Donc on peut vraiment trouver de l'information. Et puis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on peut LinkedIn, on peut suivre mon activité. Je partage des articles. Enfin voilà, j'essaye de rester en lien avec les gens parce que les réseaux sociaux, je trouve que ça a ce côté vertueux de pouvoir accéder à tout le monde partout. Et donc ça, c'est quand même un moyen assez incroyable de pouvoir communiquer.
Ouais, et puis je le dis sur Instagram, hein, on voit passer des petites recettes qui sont sympathiques. Je regardais la photo de la tarte au citron meringuée, qui avait l'air délicieuse. Hein.
J'avoue. C'est, d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de plats préférés. Je suis un gourmand et j'avoue que la tarte au citron meringuée n'est peut-être pas mon dessert préféré, mais pas loin. Pas loin. Avec le flan, j'avoue que tarte au citron meringuée, ouais, ça, c'est bon. Et surtout, ouais, quand on le fait soi-même, c'est encore meilleur.
Et ça reste compatible avec le sportif, avec la vie sportive.
Complètement, complètement. Et même, alors, je suis champenois. Donc voilà, le vin, le champagne, le vin rouge sont complètement compatibles avec la vie d'un sportif. J'ai une très belle cave avec de très bonnes bouteilles et je suis un épicurien. J'adore boire, j'adore manger. Souvent, on a tendance à penser que quand on mange des choux romanesco nature, on est un moine. Pas du tout. Pas du tout. J'adore la nourriture de manière générale, je la préfère simple et dépouillée, mais on peut aller dans des très très grands restaurants et manger de la nourriture simple, dépouillée, goûteuse. On a des restaurants à Reims, là on a le restaurant Racine à Reims, il y a un 2 étoiles au Michelin, c'est dépouillé, c'est pur, c'est sain, il y a pas d'ajout de choses chimiques ou de sauces, et c'est juste une explosion de saveurs incroyable, et avec une grande bouteille, c'est parfait.
Et ben voilà, c'est dit. Merci en tout cas beaucoup pour tous ces conseils. On regardera sur Instagram parce que c'est vrai qu'il y a plein de petites assiettes qui passent, etc. Et je pense que ça montrera aux gens aussi que bah effectivement, hein, c'est pas une vie de moine. Hein. Il y a aussi des bons petits plats et que l'un n'empêche pas l'autre entre le sport et le plaisir de la table. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je mettrai bien entendu tous les liens en note de l'épisode pour aller retrouver hein, tout ce dont on a parlé dans cet épisode. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous les conseils.
C'est avec grand plaisir.
Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors, aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple, sur Instagram, @podcastsportetnutrition, et en laissant votre avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.